RCF.
Il est 7h30, voici l'essentiel de l'information. Le journal nous est présenté par Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde.
Bonjour Simon, bonjour à tous. Après la plage, les pavés, les syndicats veulent mettre la pression sur Jean-Michel Blanquer, déjà fragilisé après les révélations sur ses vacances à Ibiza. Journée de mobilisation donc dans les écoles alors qu'un nouveau conseil de défense sanitaire est prévu ce matin. Dans le reste de l'actualité, c'est une première en France. Les députés examinent aujourd'hui une résolution pour reconnaître et condamner les crimes contre l'humanité commis par la Chine contre les Ouïghours. Et puis le cadeau empoisonné de Joe Biden pour ses un an de mandat. Sa réforme électorale vient d'être retoquée par le Sénat, alors que le président américain a essayé de défendre le bilan d'une première année marquée par le Covid-19.
Et pour débuter une question, y aura-t-il un effet Ibiza ?
Quelques jours après les révélations sur les vacances du ministre de l'Éducation nationale juste avant la rentrée scolaire, les enseignants sont donc de nouveau appelés à faire grève aujourd'hui. À Paris, la manifestation ne sera finalement pas empêchée malgré le dépôt hors délai de la demande par les syndicats. Ils réclament notamment le report des épreuves de spécialité du bac prévues en mars et l'annulation des évaluations de mi-CP. La semaine dernière, le gouvernement leur a promis le recrutement de 3300 contractuels et la distribution de 5 millions de masques FFP. Mais ce n'est pas suffisant pour Frédéric Haïdid, professeur des écoles à Paris et membre du syndicat Sud Éducation.
On a quasiment rien obtenu, si ce n'est des promesses. Donc, on remet ça. Et puis, on se trouve toujours confronté à un protocole qui fait que sur le terrain, c'est ingérable en termes d'organisation. Et nous, ce qu'on voit, en tout cas à Paris, c'est que de plus en plus d'élèves et de plus en plus de personnel tombent malades. On réclame du personnel supplémentaire pour remplacer les enseignants et enseignantes qui sont malades. Tout se fait dans une urgence extrême qui fait que les gens n'arrivent pas encore sur le terrain. Dans les collèges et lycées, toute la gestion des élèves positifs, etc., retombe sur en fait les personnels vie scolaire, les AED. Le nombre d'AED qui a été annoncé au total par Jean-Michel Blanquer, si tant est qu'ils arrivent sur le terrain, ça fait 0,2 personnes par collège. En tout cas, ça, nous, on ne les a pas vus. Hein. Les FFP2 non plus. C'est beaucoup de choses, on a l'impression, pour gagner du temps.
Voilà, les syndicats qui prévoient déjà une nouvelle grève massive jeudi prochain.
Et dans le même temps, Clotilde, un nouveau conseil de défense sanitaire est organisé ce matin.
Le gouvernement devrait réfléchir à un agenda d'allègement des restrictions sanitaires, même s'il est a priori encore trop tôt pour les mettre en place dès maintenant. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, envisage d'ailleurs de prolonger pour encore 2 semaines la règle des 3 jours minimum de télétravail. Une annonce qui ne devrait pas satisfaire les commerçants. À Nancy, par exemple, certains d'entre eux estiment que le télétravail a des conséquences sur la baisse de fréquentation des magasins.
Le flux est moins important que les années précédentes. On perd une forme de clientèle en fait qui vient consommer par exemple le temps de midi, qui vient faire du repérage, qui revient dans les boutiques après le travail. Donc tout cela, on les a perdus.
On peut pas nier que le télétravail doit avoir un impact puisque on sait qu'on a des clients qui bossent en centre-ville et qui viennent faire leurs courses entre midi et deux ou qui se prennent une heure dans l'après-midi pour venir faire les soldes. On a du mal à quantifier ça quand même parce que on se rend compte que les chiffres sont meilleurs que l'an passé. Vous allez me dire c'est pas compliqué parce qu'en passé on était quand même en période un peu plus trouble encore qu'aujourd'hui, mais même par rapport à il y a 2 ans. Bon, ça se passe bien, mais le télétravail, forcément, ça prive le centre-ville d'une certaine clientèle. On voit que ça se rattrape quand même pas mal sur le samedi.
C'est vrai que la fréquentation d'entre-midi, elle est un peu moindre par rapport à ce qu'on connaît en période, on va dire, traditionnelle, normale.
Voilà, les soldes d'hiver qui ont démarré avec un recul de 30% du chiffre d'affaires sur les 5 premiers jours par rapport à 2019 et à l'avant-crise sanitaire. Un acteur talentueux dont le regard bleu était une signature du cinéma français. L'hommage d'Emmanuel Macron à Gaspard Ulliel, décédé brutalement hier à l'âge de 37 ans après un accident de ski en Savoie. Il avait reçu 2 Césars, dont celui du meilleur acteur en 2017 pour son rôle dans Juste la fin du monde. Le réalisateur du film Xavier Dolan se dit sonné par son départ. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot rend hommage à un acteur d'exception. Un autre drame dans le Jura. 4 lycéens sont morts hier, prisonniers de leur voiture. Voiture tombée dans le lac de Chalin alors qu'il circulait sur une route verglacée. Un 5e occupant est parvenu à s'extraire du véhicule et à donner l'alerte.
Les députés examinent aujourd'hui une proposition de résolution visant à reconnaître le caractère génocidaire des violences perpétrées par la Chine à l'égard des Ouïghours.
Et si le texte est adopté, ce sera une première pour la France qui ne reconnaît pour l'instant pas en tant que génocide le sort des Ouïghours, cette minorité internée en masse, mise au travail de force, torturée dans des camps en Chine. Les faits et les témoignages sont aujourd'hui documentés. L'objectif maintenant est donc d'obliger le gouvernement français à prendre position, Baptiste Madinier.
On se souvient qu'en 2017, Emmanuel Macron avait été prompt à qualifier de génocide le massacre des Rohingyas en Birmanie. Le terme n'a pourtant pas été réemployé pour les Ouïghours. Il faut dire que la Birmanie n'a pas le même poids économique que la Chine. Pourtant, États-Unis, Royaume-Uni, Canada ou encore Pays-Bas ont déjà condamné ce génocide contre les Ouïghours. Alors à l'Assemblée nationale, ce sont donc 35 députés portés par les socialistes qui montent au créneau. Député de la Gironde, Alain David est le premier signataire.
Nous demandons donc au gouvernement français d'intervenir à la fois auprès de l'Organisation des Nations Unies, mais également auprès du gouvernement chinois pour faire cesser cette situation.
Et cette résolution est très attendue par la communauté ouïghour en France, qui sera d'ailleurs ce matin devant l'Assemblée nationale pour mettre la pression aux députés, parmi eux Ali Momer.
Pour nous, c'est important parce que déjà la France, c'est droits de l'homme, donc il faut être une exemplaire pour les autres pays. Qui accepte aussi et prend une sanction pour que au moins on peut essayer de fermer des camps de rééducation non légaux qui utilisent des Ouïghours en tant qu'esclavage et aussi pour celles qu'ils ont réfugiées en France. Cette acceptation, peut-être ça peut avancer leur dossier administratif.
Et il y a un peu plus d'un mois, après un an et demi d'enquête, le tribunal ouïghour de Londres a aussi conclu un génocide.
Et de leur côté, les sénateurs ont d'emblée rejeté en deuxième lecture la proposition de loi prévoyant un allongement de la durée légale de l'IVG de 12 à 14 semaines. Ils ont en revanche voté une autre proposition de loi sur le sport. Elle inclut notamment la création d'une société commerciale chargée de mieux vendre les droits télé pour le foot français.
Et puis il y a tout juste un an, la star de la pop Lady Gaga a interprété l'hymne américain sur les marches du Capitole pour l'investiture de Joe Biden.
Oui, au même endroit qui avait été pris d'assaut quelques jours plus tôt par les partisans de l'ancien président Donald Trump. La démocratie, elle l'a emportée, avait alors affirmé Joe Biden dans son discours d'investiture, lui qui se présentait comme le président de tous les Américains. Un an plus tard, le démocrate doit en réalité faire face à de nombreuses difficultés entre le Covid-19, les tensions avec la Russie et l'incapacité à faire adopter ses projets par le Congrès. Dernier échec en date, sa réforme électorale pour protéger l'accès aux urnes des Afro-Américains qui vient tout juste d'être enterré par le Sénat. L'enjeu était pourtant important, comme l'explique Marie-Christine Bonzon, politologue et spécialiste des États-Unis.
Les États républicains sont en train, pour certains, de passer leur propre loi locale pour essayer de renforcer le contrôle de qui peut se présenter dans un bureau de vote. Et notamment, l'une des grandes réformes classiques qui est avancée par les républicains, c'est qu'il y ait une obligation pour les électeurs de se présenter avec une carte d'identité. Évidemment, le problème, c'est qu'il n'y a pas de carte d'identité nationale aux États-Unis. Ce qui tient lieu de carte d'identité, c'est le permis de conduire pour la plupart des Américains. Les démocrates s'y opposent à ce type de mesure, qu'ils considèrent comme discriminatoire par rapport notamment à certaines minorités ethniques qui n'auraient pas à leur disposition de pièces d'identité. C'est un vieux débat entre les deux partis qui ne vise essentiellement qu'à sélectionner les bons électeurs au vu de chacun des deux partis, et s'assurer que leurs candidats vont l'emporter.
Et en réaction à l'abandon de cette loi par le Sénat, Joe Biden s'est dit profondément déçu mais pas découragé. Et puis au cours d'une conférence de presse, le président américain a prononcé une formule qui suscite beaucoup de commentaires lorsqu'il a évoqué la possibilité d'une incursion mineure de la Russie en Ukraine, comme s'il se résignait à une attaque. Peu après, la Maison-Blanche a clarifié ses propos en promettant une réponse sévère en cas d'invasion. Le chef de la diplomatie américaine doit aujourd'hui parler de ce dossier avec les Européens avant une rencontre demain avec son homologue russe.
Il est 7h39 et on peut déjà déboucher une bouteille, Clotilde. Les ventes de champagne ont battu des records en 2021.
322 millions de bouteilles ont été expédiées l'an dernier, soit une hausse de 32% par rapport à 2020 et de plus de 8% par rapport à 2019. L'export continue sa progression avec un nouveau record à 180 millions de bouteilles. De quoi faire pétiller les yeux du vigneron Jean-René Brice.
Oui, c'est une très belle année, c'est une année historique. C'est, je crois, la quatrième meilleure année de l'histoire de la Champagne en termes d'expédition. Et donc, c'est vraiment très heureux. Alors, ça vient derrière une année quand même 2020 qui avait été elle-même historiquement faible. Mais c'est une vraie bonne nouvelle pour les Champenois, hein, pour toute la famille champenoise, évidemment. Maintenant, ce qu'on va faire, on va vraiment prier Saint-Vincent pour avoir du raisin en qualité et en quantité à la vendange 2022.
Voilà, et puis champagne aussi pour Alizé Cornet à l'Open d'Australie. La joueuse française a fait tomber la numéro 3 mondiale Garbiñe Muguruza en 2-7.
Le journal de Clotilde Dumais, tout de suite, vous avez rendez-vous avec l'invité local de votre rédaction.